membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de se marquer ben, Gospel en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en tout cas la mobilisation des jeunes alors, sont totalement irresponsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et oui, la censure est encore présente sur Radio Canu, mais moi-même j'apparais évidemment dans vos micros, il est 19h07, c'est le Canu Info du vendredi, on est un poil en retard, qu'est-ce qu'on raconte ce soir?
Eh bien ce soir on va vous parler de d'abord en national du Figaro qui nous donne des idées pour zbeuler les JO, et ça c'est cool.
Et puis international ensuite, on vous parlera de la grève qui y avait lieu hier en Argentine.
Pour l'écologie, on vous parlera de ce week-end, il y a une mobilisation contre les gigabassines, donc des bassines, des méga-bassines encore plus grandes, et c'est pas si loin de Lyon, c'est dans le Puy-de-Dôme.
Absolument, l'écologie, on y tient, le sexisme un peu moins, et on va parlera dans la rubrique féminisme de l'IA, donc la fameuse intelligence artificielle, qui est aussi anti-sexiste que ses créateurs, c'est-à-dire probablement pas des masses.
Et enfin, on vous parlera de logement, où on vous expliquera comment le gouvernement amplifie la crise du logement et la ségrégation des villes françaises.
Et voilà, et puis à la fin, on vous donnera quelques petits éléments d'agenda pour savoir comment occuper votre fin de long week-end ou votre début de semaine prochaine. Évidemment, on essaiera de découvrir ce que ACAB veut dire, ACAB. Si vous savez ce que ça veut dire, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15. 04 78 39 18 15.
Bonne écoute.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution !
Et oui, on a peur dans les studios de Radio Canu, on vous a mis une musique un petit peu inquiétante. Et pourquoi? Parce que ce soir, un peu comme beaucoup de monde en France, on s'inquiète. On s'inquiète parce que, en fait, on est allé trouver des informations dans le Figaro. Alors vous allez me dire pourquoi le Canu Info va dans le Figaro. Alors, une fois n'est pas coutume, c'était pour rigoler. Le journal Réac en chef a publié le 3 mai un article intitulé, je cite, « Attaque de la flamme, sabotage des retransmissions infiltrées chez les bénévoles, ces artisans du chaos qui rêvent de faire chavirer les JO ». Ça fait peur. Et si l'on dépasse son ton agaçant, ce texte est un véritable guide pour se beuler un événement sportif. Alors on va vous donner 2-3 éléments. Ça fait plusieurs semaines en fait que les journaux de tout genre font monter une petite musique qui s'inquiète de possibles perturbations des différents événements des Jeux Olympiques et Paralympiques que pourraient créer des militants et militantes autonomes ou écologistes. Hein, ce sont elles et eux qui sont cités notamment par Gérald Darmanin, le flic en chef. Et dans le Figaro du 3 mai, ça donne ce genre de phrase. Exclusif, c'est écrit en majuscule, Les activistes de l'écologie radicale et de l'ultra-gauche multiplient les appels pour perturber le rendez-vous planétaire. Leur imagination paraît sans limite et les services de renseignement se préparent à tous les scénarios. Waouh, 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 on a peur. J'espère que, voilà, donc mon camarade à l'intérieur du studio est évidemment terrifié. J'espère, chers auditeurs sur le tour, que vous n'avez pas trop peur dans votre canapé, bien sûr. Nous sommes là. Alors évidemment, c'est fait pour faire peur, en fait. Mais c'est surtout fait pour justifier une violente répression. À la fois, si quelqu'un s'aventurait effectivement à tenter un acte de sabotage, mais aussi de façon préventive, hein, puisqu'on vous en a déjà parlé, les périmètres les plus surveillés des JOP et ceux qui sont interdits aux personnes qui n'auraient pas le bon QR code sont interdits aux personnes fichées S. Alors le truc des fichées S, c'est que, en fait, c'est énormément de monde, hein, sans doute chaque jour un peu plus. Probablement connaissez-vous sans le savoir des fichées S, peut-être êtes-vous-même fichées S vous-même sans le savoir, ça fait du monde. Et aussi, il faut noter que la source du Figaro, hein, qui précise dans le petit élément que j'ai cité précédemment, ce sont les renseignements policiers. Le journal jouait une fois de plus, hein, eh bien, à merveille son rôle de journal de préfecture qui sert directement les intérêts du pouvoir pour justifier la répression à venir. Alors clairement, hein, ce qui est écrit relève du fantasme et de la pure construction politique d'une menace en réalité bien plus faible que ce qu'on veut nous faire croire, même si évidemment le fait que cette menace soit faible, on pourrait éventuellement le regretter. Mais on est quand même plutôt dans le fantasme, il ne faut pas être dupe de ce que cette construction, qui est en fait jamais qu'une nouvelle variante, hein, sur la grande classique menace d'ultra-gauche, est là pour faire quoi. Donc elle est là pour justifier de la répression, du fichage, de la surveillance, tout un tas de choses. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'en rire un peu. Alors voici toutes les bonnes idées dont vous pourriez vous inspirer, livrées directement par les renseignements généraux et le Figaro. Alors pour le plaisir, déjà les toutes premières phrases du papier signé Christophe Cornevin, je donne son nom quand même à cet auteur de fiction talentueux. Je cite « Dans les états-majors de la police et de la gendarmerie, les experts de l'ordre public et du renseignement bandent les muscles avant le grand saut. À quelques jours de l'arrivée de la flamme olympique dans la rade de Marseille, tous savent d'ores et déjà que les Jeux vont être pris pour cible par des associations, des collectifs et des groupuscules malveillants. » Alors ça fait flipper, bon le mec manifestement est persuadé qu'il écrit vachement bien, c'est pas le cas, mais écoute, en tout cas il a peur, mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien prévoir en tout cas, tous ces groupuscules malveillants. Dans la foulée des attaques directes de Darmanin, le Figaro essaie d'être précis sur qui fait quoi, et attention, on est dans la science. Par exemple, on peut trouver cette phrase. Dans cette galaxie de l'écologie radicale où grenouillent volontiers des militants d'ultra-gauche, les éco-guerriers des soulèvements de la Terre, structure assimilée à la nébuleuse anarcho-autonome, je fais des guillemets mais vous pouvez pas les entendre, sont à la manœuvre. Donc on va encore se retrouver avec des affiches de loutres et autres pipistrelles. À Paris, on en tremble. Bon, j'arrête les commentaires et je reprends ma lecture des meilleurs passages. Les activistes, alors ça je cite, hein, les activistes de riposte alimentaire issus de l'ex-mouvement Dernière Rénovation, donc il faut imaginer le niveau de radicalité de Dernière Rénovation, c'est des gens qui balancent de la peinture sur des murs de ministère, hein, ont pour leur part annoncé leur farouche volonté d'infiltrer les sélections des relayeurs. Waouh. Ces projets d'entrisme, on est en train de comparer ces écolomous à des trotskistes, hein, dans les rangs des bénévoles, pour étouffer la flamme, faire déraper les Jeux et couvrir la France de ridicule, sont considérés avec le plus grand sérieux par les autorités. Donc on voit bien le faire couvrir la France de ridicule, hein, c'est vraiment un truc qui les inquiète, parce qu'évidemment, économiquement, il y a toute une chose autour de tout ça, et notamment toute la sécurisation, la militarisation de l'espace, la surveillance, elle est intégralement là pour assurer le fait que tout se passe bien et qu'économiquement, on soit dans de bonnes conditions, ce qui permettra d'un côté à la France, évidemment, potentiellement d'avoir deux prochains Jeux Olympiques en hiver, ou éventuellement une Coupe du Monde de hockey, ou je sais pas quoi, mais aussi à d'autres pays de voir que notre savoir-faire policier est bien présent. Et le Figaro de continuer. D'ailleurs, sur 26 000 candidats à se faire exploiter bénévolement, ça c'est moi qui l'ai écrit, les renseignements ont déjà débusqué une vingtaine de profils à risque, fichés S pour certains, qui auraient pu semer la pagaille durant les Jeux. Bon, vu la quantité de gens fichés S, franchement, c'est pas énorme, hein, sur 26 000 d'en avoir 20. Et ils n'ont pas été retenus, malheureusement. Voilà. Ah, et le Figaro de citer un fonctionnaire de haut rang. Donc là, on est aussi toujours sur des précisions dans les sources, c'est assez intéressant. On sait pas trop ce que ça veut dire, fonctionnaire de haut rang, enfin en tout cas, sauf si, évidemment, il vient de la ville, qui s'appelle Oran, blague de Daron. Ces tentatives, je le cite quand même, ces tentatives d'infiltration ont notamment été menées dans le domaine sanitaire et des secours. Et là, ça devient vraiment de la science-fiction. Il est possible que des street medics qui accompagnent habituellement les Black Blocs aient tenté de faire valoir leurs compétences pour Paris 2024.
il pourrait soigner les gens.
Voilà, c'est incroyable. Donc on s'attend à ce qu'une horde de street medics armée de sérum-fi fasse on ne sait pas quoi. D'une imagination fertile, poursuit le Figaro, les contestataires échafaudent des stratagèmes se déclinant à l'infini. Alors il est très content des mots à plusieurs syllabes, mais c'est chiant à lire à la radio. Sur le réseau X, donc c'était Twitter avant, Zbeul 2024 a lancé un bingo des actions en invitant chaque citoyen à manifester son hostilité en cochant les cases. Blocage des transports, feu de poubelle olympique, sabotage contre les JOP, une mascotte se fait chourer, pétage de vitres d'une boîte partenaire ou encore manif sauvage dans la ville. Selon un policier spécialisé, certains protagonistes de ce jeu anti-jeu, c'est fort,
ah oui,
ont déjà été identifiés lors de manifestations pro-palestiniennes ou anti-capitalistes. No shit, Sherlock, quand même, on a des flics qui bossent et ça fait plaisir parce que quand même ça coûte cher. Au rayon des actions de visibilité qu'anticipent les experts de l'ordre public, figurent les distributions de tracts. Donc là, on voit le niveau de radicalité, il se pète la gueule à une grande vitesse. Le port de t-shirts anti-JO, ça, ils sont super flippés. Devant des médias, c'est-à-dire qu'ils vont aller devant des journalistes en portant des t-shirts, ils disent les Jeux Olympiques et Paralympiques, bah, c'est de la daube. Ça va être, j'imagine, assez incroyable. Ils vont organiser des sit-ins, nous avertit le Figaro. Mais aussi, attention, le gros flip des renseignements, les projections par des faisceaux laser de messages hostiles sur des façades emblématiques. Ce mode opératoire, je cite, nous préoccupe car il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que les banderoles géantes qu'il faut fabriquer et transporter. Souffle un des stratèges de Beauvau, j'adore toujours l'emphase qui est mise aussi sur les autres, qui garde en mémoire un fugace slogan pro-palestinien étalé récemment en lettres lumineuses sur la tour de Big Ben à Londres. Voilà le niveau de menace, c'est-à-dire qu'en fait on te parle d'éco-terrorisme, etc. Et à la fin c'est ok, ils vont utiliser un vidéo proche. À ne surtout pas reproduire, chères auditrices et chers auditeurs, mais notez quand même que les slogans, bah, ça fait méga flipper. La police et la bourgeoisie, ils ont quand même peur de pas grand-chose. Alors, les flics ont aussi peur qu'il y ait des tentatives de perturbation du relais de la flamme. Alors là, évidemment, notre journaliste utilise un vocabulaire incroyable. Des traquenards sont à redouter. Donc ça, c'est ce que prédirait un officier dans le Figaro. Mais il y a pire. Au-delà de la simple communication, certains, on imagine certains collectifs, envisagent des actions plus offensives pour bloquer les chevaux pendant les épreuves d'équitation au nom de la cause animaliste, s'enchaîner au filet de Denis, endommager les greens et golf olympiques dans les events, faites surtout pas ça, ou encore asperger de peinture un relayeur de la flamme, voire un haut responsable du comité olympique, siffle-t-on sous couvert d'anonymat, dit-il. Le journaliste, c'est quand même incroyable, à nouveau, on est sur du gros flip, quoi, enfin voilà. Dans le haut du spectre de la menace, ça c'est un terme policier, les prévisionnistes du ministère de l'Intérieur, donc des gens qui sont là pour anticiper tout n'importe quoi, c'est des paranoïaques professionnels, n'excluent pas des opérations de sabotage allant de la coupure électrique pour interrompre une retransmission à, je cite, c'est incroyable, un survol intempestif en aile volante en passant par le piratage numérique pour prendre le contrôle de l'affichage d'une épreuve. Nous ignorons s'ils ont le niveau technique pour passer à l'acte, mais une chose est sûre, ils y pensent et en parlent entre eux, assure au Figaro une source informée. Alors nous, on n'est pas une source informée, hein, on est le Canu Info du vendredi, mais on trouve quand même que toutes ces idées sont assez rigolotes, et comme on n'aime pas trop les Jeux Olympiques et Paralympiques, on se fera un plaisir d'en reparler si ça arrive, hein, s'il y a un survol en air volante, waouh, ça va être incroyable. Attention,
avec un t-shirt.
Avec un t-shirt hostile aux Jeux Olympiques, voire même anticapitaliste, voire même pro-palestinien. Enfin, attention. Attention cependant, quand même, on vous prépare déjà à la répression via ce genre d'article. Et vu la quantité de flics au mètre carré qu'il y aura à Paris sur le trajet de la flamme olympique, ça risque quand même d'être particulièrement coton et risqué de mettre ça en place, à la fois d'un point de vue policier et potentiellement d'un point de vue juridique derrière. Donc attention à vous. D'ailleurs, sur le thème de la justification de la répression, on peut aussi constater que les renseignements donnent totalement dans la théorie du complot en imaginant que des camarades écologistes ou autonomes sont contentes de se faire réprimer la gueule. Et c'est assez surréaliste, et là je vais encore signer le Figaro. Attention, en cas d'intervention des forces de l'ordre, les experts redoutent que la situation s'envenime et que l'ultra-gauche n'exploite le moindre incident sur les réseaux sociaux. Les services spécialisés créent une action concertée contre les policiers ou les gendarmes pour diffuser ensuite sur les réseaux sociaux des vidéos d'interpellation et de gens qui se débattent, avertit une source informée, donc toujours la même je pense. Pour les théoriciens du chaos, donc ça j'imagine que c'est les autonomes, les anarchistes, les éco-terroristes et autres,
les autres,
l'idée est de justifier le fantasme selon lequel les JO sont un prétexte pour fliquer tout le monde et quadriller les villes de caméras sur le modèle de Big Brother. L'inversion de la charge est absolument surréaliste. C'est-à-dire qu'en gros, sachez-le, le problème, c'est pas qu'on vous fiche, c'est pas qu'on vous surveille, c'est pas qu'on vous filme, c'est pas qu'on vous frappe, c'est pas la domination policière, mais c'est le fait que vous le dénonciez. Et ça, c'est vraiment pas sympa. C'est pas sympa pour la police, c'est pas sympa pour l'État, qui se fait chier quand même d'organiser des jolis jeux. Je veux dire, à un moment, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une grande fête populaire. Ils se donnent tant de mal pour se travestir en protecteur de la veuve et de l'orphelin. Alors, s'il vous plaît, si jamais vous vous faites matraquer, ficher, frapper, etc., pendant les Jeux Olympiques, au moins, ne protestez pas et soyez sympa avec la police. Voilà, et on se passe tout de suite une petite musique en lien avec le retour de l'ultra-gauche.
Qui en veut à la SNCFE, qui déclare la guerre au quart-ténaire. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule, on sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer, si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins, et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties, l'État dans son action sera direct. Aussi, détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates, c'est pour les sabotages. UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Le jugement est tombé, fini le jardinage, pour toi ça va chauffer, sous les navets, la plage. Une bombe atomique, demain sera lâchée, contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste, le seul spéculateur anticapitaliste. UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. Qui en veut à la SNCFE?
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et pour l'international, de quoi on va vous parler? Ben, on va vous parler de l'Argentine. Parce que hier, il y avait une grève générale monstrueuse qui s'est déroulée. Alors, avant de vous parler de la grève en elle-même, on va déjà vous reparler un peu. On vous a déjà évoqué de ce qui se passe en Argentine. Donc, ça doit faire un an à peu près maintenant, peu ou prou, que Javier Milei a été élu à la présidence. Donc, c'est une espèce de néo-fasciste libertarien, pour faire simple, qui veut tout couper à la tronçonneuse. Et qui n'en a rien à foutre, en fait, de la population d'Argentine, tout simplement. On peut faire un petit... Déjà, il y a des petits bilans qui sont faits de ces premiers mois de mandat. C'est plutôt intéressant à voir. Et on voit, entre autres, qu'il y a un taux de pauvreté qui explose complètement, puisque le taux de pauvreté était à 44,7% il y a six mois avant janvier, donc en juillet dernier, août. Et elle a pris plus de 10%, s'élevant à 57,4% en janvier, ce qui est quand même assez pété en six mois d'augmenter plus de 10%.
C'est très
fort. Le taux de pauvreté, dans un pays qui est déjà très pauvre, par ailleurs, on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. Par ailleurs, l'extrême pauvreté, elle, passait de 9,6% de la population en novembre 23 à 15%, donc pas tout à fait deux fois plus, mais pas si loin, en janvier 2024. Donc ça, on est sur un travail en 4 mois. Donc non seulement il y a de plus en plus de pauvres, mais en plus les gens extrêmement pauvres se sont quasiment multipliés par 2, ce qui est quand même tout à fait terrifiant. Voilà, on vous en avait parlé, il y avait déjà eu des grosses manifs en Argentine, en lien avec la loi Omnibus, qui prévoyait en gros de s'aborder tout ce qui est l'État, sauf évidemment les keufs et l'armée, et de tout laisser en fait dans un modèle purement néolibéral et d'abandonner évidemment tous les investissements de l'État qui pourraient servir aux gens les moins bien lotis, c'est-à-dire les 90% des gens les moins bien lotis, hein, finalement. Alors, cette loi Omnibus, comme on vous l'avait dit, elle n'était pas tout à fait passée, mais bon, comme Javier Milei, il n'en a pas grand-chose à foutre de rien, il s'est dit, bah, on recommence, et donc il propose la loi base, qui est sensiblement la loi Omnibus avec 2-3 petites modifications, et entre-temps, il a réussi à faire un petit peu des potes dans le monde parlementaire en Argentine, ce qui fait que... Et j'ai peur d'inverser, mais je crois pas dire une bêtise en disant que malheureusement la loi est passée au Sénat et qu'elle doit être étudiée par le Congrès. Et si c'est l'inverse, excusez-moi. Pour rappeler un peu, en gros, donc, il prévoit une grosse réforme des retraites où évidemment, on la connaît en France, on l'a vécu l'an dernier, où il faudra travailler plus longtemps, une réforme du travail, la mise en place d'un régime fiscal, évidemment profitable aux grands groupes économiques internationaux, des dérogations sur l'exploitation minière, et évidemment un renforcement du pouvoir présidentiel, ça alors. Voilà, on peut noter quand même que là, il y a eu des coupes budgétaires de près de 70% dans des universités, des attaques massives contre les salaires des enseignants et des fonctionnaires d'une façon générale, leurs salaires se sont complètement effondrés, des licenciements conséquents dans le privé et massifs dans le public. Enfin bref, le type est tout simplement en train de détruire complètement tout le pays. Face à tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait eu des grosses grèves déjà, et il y en a eu la plus grosse qui est arrivée, donc c'était hier, jeudi 9 mai, avec une journée de grève générale qui a quand même marqué un tournant, puisque si les syndicats des transports n'avaient pas vraiment appelé à la grève lors de la dernière journée en janvier, finalement là, c'est tous les syndicats en fait, et toutes les forces de gauche qui ont appelé à la grève et qui se sont mobilisées, ce qui fait que dès 22h mercredi, la plupart des usines et des grandes concentrations ouvrières du pays ont vu leur production mise à l'arrêt. Du coup, on peut citer, parce que ça fait toujours un peu plaisir, Coca-Cola, des pneumatiques, Sunta, le groupe technique, etc. Et évidemment des gens d'ArcelorMittal qui se sont retrouvés à arrêter de bosser et qui ont complètement paralysé le capitalisme dans le pays sur ce temps-là. Du coup, il y a eu un déferlement fou de gens dans la rue, et pas que à Buenos Aires, vraiment dans tout le pays, il y a eu des manifs monstres. Et on a pu en plus s'amuser un peu en voyant les représentants de l'extrême droite essayer de trouver le bus qui marchait ce jour-là, après avoir galéré pendant des heures, pour essayer de montrer, parce que finalement, il y avait une grosse communication qui a été faite sur la grève en janvier, pour montrer que oui, mais que non, mais qu'il n'y avait pas tant de gens que ça dans les rues, avec des plans bien truqués, bien coupés, tout simplement, il n'y avait pas besoin de truquer. Et comment est-ce que finalement les transports marchaient, comment il y avait un petit magasin ouvert. Alors évidemment, on imagine, comme notre BFM, aller tendre le micro au petit commerçant qui a ouvert quand tous ceux autour sont fermés, etc. Mais en fait, là, la grève était tellement massif et quasiment tout était à l'arrêt, et toute la classe ouvrière argentine finalement a réussi à se mobiliser en même temps pendant 24 heures pour aller foutre la pression sur Javier Milei. Alors ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Maintenant, on se pose la question de qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Est-ce que ça va mettre suffisamment de pression sur les quelques politicards qui étaient d'acte de discuter, et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir mettre la pression en Argentine sur en fait tout un tas de syndicats qui finalement avaient quand même appelé à la manifestation, à la grève ce jour-là, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais qui finalement se place dans une position disant qu'il faudrait des discussions avec l'appareil d'État pour voir comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions, etc. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de discussion en fait avec des barjots comme Javier Milei, et à part la destitution, la négociation avec ce type-là n'existera pas. Y croire, c'est vraiment une forte bêtise, et du coup, ça, il y a toute une extrême gauche qui s'organise finalement de plus en plus avec divers syndicats et partis pour porter cette chose-là, monter encore à la grève autant de fois que ce sera nécessaire et essayer de faire basculer, de bloquer déjà le passage de la loi Bas, qui serait vraiment une catastrophe, et par ailleurs de bloquer finalement tout le pouvoir que Javier Milei a réussi à prendre en Argentine.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, rubrique écologie. Alors en Argentine, il y a aussi des destructions écologiques, mais là, on va revenir beaucoup plus près de chez nous, puisque ce week-end, plus précisément demain, il y a une mobilisation sur le thème ni ici, ni ailleurs, ni ici, ni ailleurs, cette fois-ci. Ça parle des méga-bassines, puisque les deux plus gros méga-bassines de France devraient être construites en Auvergne. Enfin, devraient. Non, elles ne seront pas construites, mais en tout cas, il y a un projet pour les construire depuis plusieurs années. Une poignée d'agro-industriels tente de s'accaparer l'eau un peu partout dans le pays, et c'est maintenant donc au cœur de l'Auvergne, dans la plaine céréalière de la Limagne, donc c'est à l'est de Clermont-Ferrand, dans le 63, qu'avance le plus grand projet de giga, méga, ultra bassine jamais conçu en France. Ça veut dire 2,3 millions de mètres cubes d'eau sur 330 000 mètres carrés de bâches plastiques. Alors officiellement, ce projet est porté par l'ASL des Turlurons, donc un nom extrêmement mignon, hein, qui est un agglomérat d'entreprises agricoles, hein, qui est composé de 36 exploitations agricoles, dont font partie notamment le président de la multinationale Limagrain. Donc Limagrain, c'est quand même le quatrième semencier mondial, hein, un petit, on va dire, et 5 de ses administrateurs de Limagrain. Donc officieusement, hein, c'est donc bien Limagrain qui pousse ce projet dans l'intérêt de sécuriser sa production de maïs semences destinées à l'exportation, et le tout en bénéficiant d'un financement à hauteur de 70% par l'argent public. Ces gigabassines, elles se rempliront directement par pompage dans un affluent de la Loire, hein. Cet affluent, c'est l'Allier, c'est comme un très gros affluent. Il s'agit dans la zone où elles doivent être construites, d'une zone Natura 2000, hein. C'est le Natura 2000, c'est le degré le plus élevé de protection environnementale qu'on puisse avoir, et une zone Natura 2000 qui supporte localement l'alimentation en eau potable de plus de 200 000 habitantes et habitants. Et comme si tout cela ne suffisait pas, cet accaparement de l'eau va de pair avec la privatisation du vivant, la dégradation des sols, l'assèchement des écosystèmes, l'anéantissement de la biodiversité et la pollution des eaux par l'usage intensif de la chimie agricole, et notamment de tous ces intrants pour faire pousser ce beau maïs. Alors que les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, longues et sévères, alors que l'approvisionnement en eau potable des populations est gravement menacé en Limagne et ailleurs, eh bien, les personnes qui appellent à la manifestation disent « Nous n'acceptons pas que l'agro-business s'accapare l'eau pour poursuivre coûte que coûte ses activités mortifères ». Et donc le 11 mai, c'est demain, alors que les travaux n'ont pas encore commencé, ils appellent un rassemblement pour faire entendre une opposition ferme et déterminée. Alors, les personnes qui appellent, c'est notamment BNM 63. BNM, ça veut dire Bassine Non Merci. 63, c'est donc le numéro du département que j'ai bouffé.
Le Puy-de-Dôme.
Le Puy-de-Dôme, merci beaucoup. La Confédération Paysanne, Extinction Rébellion, et les faucheurs volontaires et les soulèvements de la terre donnent donc rendez-vous demain pour une randonnée pédagogique, festive et artistique. C'est joli. En défense de l'Allier, de ses affluents, des terres qui l'entourent, pour une agriculture paysanne contre l'emprise hégémonique et dévastatrice de l'agrobusiness, nous comptons sur vous, disent-ils et elles. Alors, pour avoir toutes les infos, et notamment parce que cette petite randonnée pédagogique, festive et artistique, elle pourrait avoir besoin de vous, et elle pourrait avoir besoin que vous anticipiez un petit peu vos déplacements. Toutes les infos pratiques, donc notamment sur les différents départs, il y en a qui partent à vélo de différentes villes, il y en a qui partent à pied de différents points pour se retrouver au même endroit, et aussi pour les infos juridiques qui peuvent aller avec une répression potentielle, on ne la souhaite pas, mais bon, la dernière grosse manifestation contre des méga-bassines, c'était à Sainte-Soline il y a un an, et ça c'était pas hyper bien passé. Et bien toutes ces informations là sont sur le Linktree de BNM 63, le Linktree de BNM 63, donc il va vous renvoyer vers tous les autres sites, toutes les informations, etc. Son adresse, c'est https:// linktr, donc linktr.ee/bnm, donc bassine non merci 63. On espère que vous trouvez toutes ces informations dans le cas échéant, un moteur de recherche vous aidera à y arriver. Voilà, n'hésitez pas à vous y rendre non merci les bassines.
Et invisible et disponible, libre et irréductible. Et invisible et disponible, libre et irréductible. La femme, les femmes fières et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Et alors, vous avez peut-être appris dans Elle cette semaine que Emmanuel Macron n'a pas défendu Gérard Depardieu, qu'il n'a pas remis en doute la parole des meufs qui ont eu le courage de le dénoncer. Et ben, c'est pas vrai du tout. Et il y a aussi des gens qui, peut-être, c'était l'IA finalement qui l'avait écrit ce discours de merde. En tout cas, l'IA, il y a une étude, alors c'est pas souvent qu'on va citer, mais c'est une étude de l'UNESCO qui a travaillé sur l'IA et sur les biais. Alors là, on va surtout parler des biais de genre, mais évidemment, vous vous en doutez, il y a aussi des biais. Par exemple, si vous êtes noir, ce ne sera pas tout à fait pareil que si vous êtes blanc. Alors, en gros, ce qu'on fait, les personnes qui ont travaillé sur cette étude, elles ont pris un peu les modèles de langage, bon, en gros, les IA un peu connus, donc ChatGPT dans sa version 2, dans sa version 3, 4, Llama 2 et compagnie, et lui ont posé des questions pour voir un peu qu'est-ce qui sort comme terme, à quoi est-ce qu'on peut les associer, à quel champ lexical, et finalement, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif si on devait faire un tri. Et là, accrochez-vous bien, ces IA dont on nous vend finalement la sorte de perfection, ces machines qui n'auraient aucun biais et qui pourraient finalement nous proposer une forme de vérité tout à fait neutre et pas du tout ancrée dans la réalité, associent assez étonnamment les noms féminins à des mots comme famille, enfant ou mari, qui fait quand même partie des premières occurrences quand on parle d'une meuf dans les mots qui vont revenir le plus souvent, il y a quand même mari. C'est vraiment très c'est vraiment génial. Pendant ce temps-là, pour les noms masculins, on est plus souvent renvoyé à des termes comme carrière, dirigeant, entreprise. Évidemment, ça va marcher pour ça. Et puis si on leur a demandé d'écrire des petites histoires avec les personnages, comme ça, pour voir un peu ce que les IA produisaient et comment est-ce qu'elles percevaient notre monde et comment est-ce qu'elles nous le racontaient. Accrochez-vous bien, il semblerait que les hommes se retrouvent bien plus souvent avec des titres de job, alors prestigieux en tout cas dans le monde du capitalisme, comme ingénieur ou médecin, là où les femmes sont reléguées à des rôles sous-valorisés, voire carrément stigmatisés, du genre domestique, cuisinière ou prostituée. Par ailleurs, ils ont aussi essayé avec les garçons et les filles pour les enfants, en trouvant pour les garçons quelque chose comme trésor, bois, mer, aventureux, décidé. Pour les femmes, pour les jeunes femmes, malheureusement, on retombe sur jardin. Bon, ça, pourquoi pas, c'est super finalement le jardin. Amour, doux et, une fois encore, mari, qui semblerait déjà hanter l'imaginaire des IA qui est sur l'imaginaire des jeunes filles. Voilà, on va pas vous faire la liste de tout ça, on pourra quand même citer que certaines IA sont plus racistes que d'autres, certaines IA sont plus sexistes que d'autres, et surtout certaines IA sont plus homophobes que d'autres, et finalement elles le sont toutes ou presque extrêmement homophobes, et finalement dans les biais discriminatoires qui vont ressortir de ces IA, l'homophobie est quand même vraiment terrifiante, et quasiment toujours, avec des recherches autour du terme gay, les connotations du champ lexical qui va ressortir sont presque systématiquement soit négatives, soit neutre et quasi jamais positive. Alors, c'est une fois encore, mais il faudra sans doute ne jamais cesser de le dire, parce que ces IA, elles commencent à prendre une place vraiment forte dans la société, et qu'en fait, ce pseudo-modèle neutre de truc qui apprendrait tout seul, il ne fait qu'apprendre ce qu'on lui donne à apprendre, et que finalement, il est vraiment extrêmement dangereux de les voir se propager et être utilisé de plus en plus de partout, parce que non seulement elles proposent évidemment pas une vérité neutre, mais surtout, on commence à voir comment elles vont envahir nos imaginaires, et comment finalement elles vont ne faire que reproduire et confirmer et répéter tous les biais discriminatoires qui existent aujourd'hui, et plus elles seront là pour les présenter comme une production d'une machine qui soi-disant n'aurait pas de positionnement politique et pas d'idée, alors les machines n'ont pas d'idée, mais elles recrachent par contre tout ce qu'elles voient, et ça rend extrêmement flippant d'imaginer qu'il y a des générations, en tout cas celle qui arrive là, qui va grandir avec ce truc là et qui va lui balancer des clichés sexistes, racistes, homophobes à gogo, et qui sera d'autant plus difficile de s'en défaire, puisque finalement ça viendra d'une machine, et critiquer la position politique d'une machine, c'est toujours bien plus délicat que de critiquer un discours politique qui est assumé comme tel. Voilà, donc c'est terrifiant de voir comment l'imaginaire va être envahi de plus en plus par tout ça. Alors il y a bien quelques abrutis qui disent oui, mais l'IA c'est quand même super, mais c'est super qu'on ait des études comme ça, ça va permettre de les améliorer, etc. Mais si déjà nous-mêmes on était capable d'avoir conscience de nos biais sexistes, racistes, homophobes et autres, on pourrait éventuellement déjà commencer par travailler sur nous-mêmes. Mais imaginez qu'on soit capable de voir tous les biais de chacun chacune, de les modéliser correctement pour les rentrer dans les IA, pour aller contrer les masses de données complètement dégueulasses qu'elles bouffent, parce que les IA elles se promènent sur internet à longueur de journée. Imaginez que ça pourrait être une solution de les rendre neutres et qu'après elles propageraient finalement une espèce d'image neutre du monde, comme si la perception n'était pas subjective. C'est juste complètement débile, et c'est malheureusement souvent ça qui est prôné finalement quand il y a des études comme ça. Nombre d'éminents spécialistes de l'IA viennent se positionner en disant c'est super, regardez, maintenant qu'on le sait, on va les rendre plus neutres. En fait, vous travaillez dans la Silicon Valley pour la plupart, vous êtes quasiment que des mecs, quasiment que des blancs, vous êtes déjà pétri de biais en vous-même. Alors du coup, si on pouvait laisser nos imaginaires et arrêter de faire fonctionner ces IA qu'on ne maîtrise déjà plus tellement, ça serait vraiment fantastique.
Absolument.
J'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère et à graisser la planète entière.
Ouais, bah le programme de l'abbé Pierre, manifestement, c'est pas notre gouvernement qui va le mettre en place. Et du coup, pour en parler, et notamment sur la question du logement, il y a une tribune qui vient d'être publiée par des chercheuses et des chercheurs dans le monde qui annoncent aussi une journée d'études et qui essaient de porter un regard, on va dire scientifique, un peu sur la crise du logement et notamment sur les réformes proposées par ce cher Kasbarian. Le mal-logement en France, il faut quand même faire un point là-dessus, ça touche un max de monde, puisque près de 4 millions de personnes en France sont considérées comme mal-logées, à ce à quoi il faut ajouter le sans-abrisme, un sans-abrisme qui a littéralement explosé dans le pays, hein, puisqu'il y aurait environ 330 000 SDF aujourd'hui en France, c'est-à-dire 2,3 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc pareil, on parlait tout à l'heure de l'Argentine, on crée aussi ici des inégalités qui explosent dans tous les sens. Mal-logement et sans-abrisme, ça constitue un peu les manifestations visibles, hein, la face immergée de l'iceberg d'une crise du logement qui n'affecte pas seulement en plus les plus pauvres, elle touche quand même une grande partie de la population, et notamment avec l'explosion des prix de l'immobilier, hein, le prix des logements a été multiplié par 3 depuis 1998, c'est-à-dire en 25 ans. Tout ça, ça renforce évidemment des inégalités préalables, des inégalités patrimoniales, en même temps qu'elles pèsent aussi sur le pouvoir d'achat des ménages, hein, qui consacrent désormais plus d'un quart de leur budget au logement, et qui est le logement, on rappelle, c'est comme une dépense contrainte, puisqu'on en a besoin de manière systématique. La crise a des effets sur les capacités de logement des classes moyennes et populaires, hein, et contribue notamment à aggraver la crise écologique, puisqu'elle repousse celles et ceux qui veulent accéder à la propriété vers des espaces périurbains toujours plus lointains, au prix d'une artificialisation des sols et d'une dépendance à l'automobile de plus en plus forte, hein, croissante. Elle renforce enfin la ségrégation socio-spatiale en faisant exploser les inégalités de tous ordres, hein, notamment en donnant pas la même valeur à tous les quartiers et en procédant à des mécanismes ségrégatifs qui vont toucher aussi bien la question du travail que celle de l'école, par exemple. Et donc, qu'est-ce que nous propose notre gouvernement ? Il nous propose un choc de l'offre, et le choc de l'offre annoncé par Gabriel Attal dans son discours de politique générale il y a quelques mois, pour résoudre cette crise est désormais décliné dans un projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables qui va être bientôt soumis au Parlement. Alors tout ceci laisse un peu circonspect, c'est une promesse qui avait déjà été faite par un certain Emmanuel Macron en 2017 alors qu'il était candidat à la présidentielle, mais les mesures adoptées depuis ont plutôt eu l'effet inverse que de rendre le logement abordable. La ponction étatique, notamment sur les recettes des bailleurs sociaux, donc c'est-à-dire que les recettes des bailleurs sociaux, c'est un endroit où on allait faire des économies assez massivement, elle a produit, aujourd'hui c'est 1,3 milliard d'euros par an qui a été repris en fait aux bailleurs sociaux par le gouvernement, a abouti en fait tout simplement à un effondrement de la construction HLM hein, qui est passé sous le seuil des 100 000 logements par an depuis 2020. On était à peu près à 126 000 en 2016, donc juste avant l'élection d'Emmanuel Macron, donc c'est quand même une division en tout cas une baisse de 25%, combinée avec la hausse des taux d'intérêt donc, sur lesquels peuvent notamment emprunter les bailleurs, cette mesure a fait plonger la production neuve qui a diminué de 35% entre 2017 et 2023. Et les gouvernements continuent dans cette voie malgré les interpellations qui vont en fait d'acteurs extrêmement larges, hein, notamment les acteurs du logement social, les acteurs du sans-abrisme, les acteurs aussi que sont les chercheuses et chercheuses qui s'expriment dans cette tribune que je synthétise. Le Conseil national de la refondation, donc c'était ce qui faisait suite au premier mois de la crise de Covid, qui faisait écho à la Seconde Guerre mondiale, a eu une partie logement qui a été mise en place en septembre 2022, et avait permis de faire discuter un peu des acteurs aux intérêts éloignés. Alors ça faisait mettre sur la même table des promoteurs privés, des bailleurs sociaux, et puis des associations des personnes mal logées, c'était un peu le bazar. La concertation avait cependant abouti à l'élaboration de nombreuses propositions qui devaient permettre de renforcer l'accès à de toutes et tous à un logement digne, abordable. La suite, elle est connue. En fait, le ministre qui avait porté fameux CNR logement, qui s'appelait Olivier Klein, personne ne s'en souvient, a été exfiltré du gouvernement un mois après la fin de ses travaux. Son successeur, dont vous n'avez même pas retenu le nom, qui s'appelait Patrice Vergriette, est resté en poste moins de 6 mois. Alors en fait, Vergriette, il est encore au gouvernement, mais il a pris une autre mission, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et il a été remplacé en février dernier par Guillaume Kasbarian, un type incroyable, une moustache, un béret à la con qui lui donne des petits airs d'hipster qui te vendrait de la viande made in France dans son resto appelé Les Gourmands, et dont les initiatives et les prises de position alors qu'il était député, notamment la fameuse loi Kasbarian-Berger qui criminalise toutes les personnes en défaut de loyer et qui s'attaque fortement au squat, et ben ça a laissé quand même assez peu de doutes quant aux suites qu'il allait donner, notamment aux propositions de ce fameux CNR logement. Alors le projet gouvernemental qui a été présenté là va aussi à rebours des connaissances établies, notamment par la recherche, y compris lorsque ces connaissances ont été établies à l'occasion de démarches d'évaluation lancées par les administrations compétentes sur la question du logement. Et alors c'est notamment le cas pour la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, hein, et son article 55 que vous connaissez sans doute puisqu'il vise à rééquilibrer l'offre de logement social sur l'ensemble du territoire, notamment en introduisant ce pourcentage de logement social qui doit être construit par chaque commune et dont les effets limites ont été notamment mesuré pour son 20e anniversaire, c'était en 2020. Le bilan aurait dû conduire, notamment de la loi SRU, aurait dû conduire à un durcissement des contraintes pesant sur les communes réfractaires, hein, celles qui ne construisent pas de logement social. Et étonnamment, au contraire, le gouvernement prévoit leur assouplissement avec l'intégration des logements dits intermédiaires. Alors, les logements intermédiaires, c'est des logements construits par des bailleurs sociaux notamment, mais pas que, qui s'adressent à des ménages au-dessus des revenus, au-dessus des plafonds, dont les revenus sont au-dessus des plafonds du logement social. Et l'idée, c'est d'intégrer ces logements dans les quotas de logements sociaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets tout dans le logement social, ben, tu n'y mets plus rien. Et donc, tu arrêtes de construire des logements véritablement sociaux. Cet allègement de la loi SRU, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il était demandé par personne, si ce n'est quand même une poignée de maires de communes très favorisées qui transgressent délibérément la loi depuis de longues années, avec même des maires qui sont capables d'affirmer lors de campagnes municipales qu'ils préfèrent payer des amendes plutôt que d'accueillir sur leur territoire du logement social. Et bah, du coup,
plutôt que de respecter la loi, même on, ouais, on peut même. C'est quand même un positionnement pour des gens de droite, parce que c'est tous des connards de droite qui sont prêts à parler d'autorité, du respect de l'État, etc. Mais qui annonce clairement que respecter la loi n'est pas si important. Ils peuvent payer les amendes pour ça.
Absolument. Donc ces maires sont juste des délinquants. Hein, techniquement, ça s'appelle comme ça quand on respecte pas la loi. Et bah évidemment là, on leur donne un blanc-seing malgré la. Donc c'est finalement l'abandon en fait de cette mesure phare de l'arsenal législatif qui était la loi SRU et de la lutte quand même contre la ségrégation résidentielle. Alors attention, la mixité sociale, ça résout pas tout. C'est un faux ami, etc. On va pas non plus en dresser un portrait effroyable, mais quand on casse tout, évidemment, on n'est pas certain que ça va aller mieux. Et puis, il y a une deuxième mesure annoncée qui, elle, fait un peu moins causer, mais qui, par sa combinaison avec la première, amplifie la ségrégation et pourrait réduire à néant les perspectives de mobilité résidentielle et d'accès à un logement digne pour des centaines de milliers de ménages. Cette promesse, en effet, c'est celle-ci, je la cite, hein, donner la main aux maires pour la première attribution des nouveaux logements sociaux construits dans leur commune. Et en fait, elle revient à inscrire dans la loi une forme de préférence communale, hein, sur le modèle de la préférence nationale, c'est un truc bien réac, qui est déjà en fait en partie une réalité dans de nombreux territoires, hein, notamment puisque les élus siègent aux commissions qui donnent les logements sociaux. Du fait d'arrangements informels entre élus, bailleurs sociaux, préfectures, enfin tout ça est loin d'être parfait. Il y a quand même pas mal de travaux, notamment scientifiques, qui montrent aussi à quel point, par exemple, l'attribution des logements sociaux peut reproduire des mécanismes racistes. Il n'y a pas forcément besoin de l'IA pour ça. Dans un contexte d'explosion des files d'attente à l'entrée du parc HLM, donc aujourd'hui il y a 2,6 millions de personnes en France qui sont en l'attente d'un logement social. Donner aux maires la possibilité de choisir les locataires, forcément ça risque de conduire à limiter l'accès aux ménages déjà présents dans la commune, puisqu'on est vraiment dans cette espèce de logique de l'offre, il faut aller attirer des nouvelles personnes, et ça risque aussi de bloquer de façon corollaire les possibilités de mobilité des personnes qui pourraient par exemple rester dans la même commune mais changer de quartier. Et puis évidemment, c'est un droit quand même un petit peu discriminatoire, le moment où tu as le droit de choisir des locataires de biens qui, par ailleurs, ne t'appartiennent pas. Enfin, je veux dire, c'est déjà problématique quand des propriétaires privés règlent un certain nombre de trucs, mais il faut quand même rappeler aux élus qu'ils ne sont pas propriétaires du parc HLM en aucun cas, et que c'est censé être un service public, c'est pas à eux de décider, enfin ça devrait pas être à eux de décider, manifestement c'est ce qui est sur la table. Au-delà de ces mesures affectant le logement social, c'est aussi l'orientation austéritaire qui va avec tout ce programme et la politique du logement qui mérite de poser des questions, notamment l'effort public pour le logement. Il s'est littéralement pété la gueule pour atteindre un poids historiquement bas. En 2023, l'effort public pour le logement, c'est 1,6% du produit intérieur brut, donc c'est un niveau bas historique. C'était 2,2% en 2010. Alors 2,2% et 1,6%, comme ça, ça n'a pas forcément l'air extrêmement lointain, mais en réalité, c'est des milliards d'euros qui se sont volatilisés, qui devraient permettre de construire du logement abordable. Et ce désengagement étatique s'accompagne d'incitations pressantes pour que les bailleurs sociaux vendent leur patrimoine. C'est aussi un truc très courant actuellement. Et depuis 2018, les tentatives se multiplient aussi pour ouvrir le secteur du logement social au marché financier. Alors pour l'instant, ça ne marche pas très bien, mais si on regarde ce qui s'est passé notamment en Angleterre ou en Suède, bah, le logement social, c'est devenu vachement bien. Et pourquoi c'est rentable d'ailleurs? Ça, c'est pas précisé dans leur texte. C'est pourquoi c'est rentable pour des acteurs financiers de faire du logement social? C'est parce que c'est un public contraint. Les gens, ils vont pas se barrer, il faut qu'ils payent. Et puis si c'est pas eux qui payent, on va se débrouiller, on va passer par l'assistance sociale, on va passer par la subvention de l'État à travers
l'État qui va finalement payer. Enfin, les personnes vont se faire arnaquer sur le loyer. Et par ailleurs, l'État va raquer pour engraisser les groupes, on imagine.
Exactement. Et du coup, effectivement, aujourd'hui en France, le logement n'est pas financiarisé, contrairement à l'immeuble de bureau qui devient un bien un petit peu, mais ça pourrait quand même changer. Et les effets à long terme de la financiarisation du logement social, on va peut-être même pas se perdre de temps à expliquer à quel point ça pourrait être de la merde. Bah, j'ai fait de la merde, en tout cas, moi. La politique du logement apparaît pour ce qu'elle est réellement, hein, c'est-à-dire à l'antipode des principes de rationalité et de concertation sur lesquels elle devrait aller, surtout profondément néolibérale, austéritaire et inégalitaire.
Et avant de conclure cette rubrique, il y a aussi une petite musique qui monte en ce moment. On les entend se prononcer sur le fait que les parents qui auraient des enfants qui ne seraient pas assez sages aux yeux de l'État, finalement, ne pourraient peut-être plus trop avoir un logement social, etc. Et ça, je pense, c'est vraiment une musique sur laquelle il faut être très très prudent et prudente, parce que ça va arriver. Ils commencent à le dire, tout le discours autoritaire, et particulièrement de responsabilisation, comme ils aiment dire, sur des parents par rapport à leurs enfants. Et on va quand même redire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que finalement, avoir un logement ou pas, ce serait plus un droit, ce serait un luxe d'avoir un logement, en tout cas une punition de ne pas en avoir. Et il sera impossible de laisser passer quelque chose comme ça. Être à la rue, c'est pas une punition et c'est pas l'exercice d'une décision de justice pour des actes commis.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et quoi faire ce week-end et cette semaine? Et bah demain, alors déjà on vous en a parlé quand même, ce week-end il y a une super promenade randonnée dans le Puy-de-Dôme qui est organisée entre autres par Bassine Montmercy Puy-de-Dôme. On vous a donné le lien et si jamais vous pouvez, il fait méga beau, n'hésitez pas, n'hésitez plus, mais comme pour toute randonnée, soyez quand même prudente. Par ailleurs, si jamais vous devez rester à Lyon, et bah samedi 11 mai, donc pas plus tard que demain, il y a une projection et un après-midi d'information autour de la lutte d'émancipation du peuple kurde, et ça commence à 14h à l'annexe de l'ECG. C'est une après-midi qui a lieu en soutien au collectif Solidarité entre femmes à la rue, dont on rappelle qu'elles ont été expulsées la semaine dernière par la mairie du gymnase d'Argent. Le soir, à partir de 18h, il y a une soirée à Grande Zéro en soutien à la Palestine. On n'a pas le programme sous les yeux, mais vous avez internet et vous retrouverez sans nul doute. Et à 18h30, au Jusqu'ici, toujours samedi, il y aura un retour sur les émeutes de 2019-2020, rencontre-débat avec des membres de la revue Agitation. Jeudi, ensuite, vous pourrez aller à Gerland, au Centre Social Bonnefoy, pour voir Un air de Brooklyn, une projection de débat avec le DAL 69. C'est à partir de 19h pour parler finalement de droit au logement, de ségrégation spatiale, de marketing territorial, tout ce dont on vient vous parler. Et alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que le jingle ACAB n'est pas disponible pour l'instant, mais ça n'est pas grave parce que finalement il était disponible.
Radio Canu, Canu Info du vendredi.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ACAP cette semaine? Eh bien, écoutez, il y a une auditrice qui nous a appelé et qui nous a dit « Peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être, il a déjà été dit, mais on va quand même essayer. Ça pourrait bien être « Attaquons le capitalisme et arrêtons les bassines ».
Ça semble être une super bonne idée. On va essayer d'arrêter les bassines, on va essayer d'arrêter le capitalisme, on va essayer d'arrêter Casbarion et ses petits copains sur le logement. On tente d'arrêter, il y en a qui tentent de continuer, c'est les amateurs de métal. Ils reviennent très probablement dans quelques minutes avec votre habituelle émission métallique du vendredi soir, Noise Pollution.
Et bah pour nous, on est tout bon et puis on se retrouve la semaine prochaine à 19h.